Bien, alors nous allons reprendre nos travaux avec un exposé de Mesnil de Mitte, la matière féerique dans l'œuvre de Flaubert. La féerie est un domaine de recherche important de Mesnil de Mitte, qui a soutenu d'abord une thèse sur le cinéma et la nouvelle vague et l'acoustique, je crois,
oui, c'est ça.
Et qui a participé au programme de recherche fractal franco-allemand que nous avions organisé et entre l'ITEM et l'Université de Munich, et qui maintenant participe à un programme à l'Université d'Erfurt sur les féeries.
Sur la féerie.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans ce séminaire sur Flaubert et l'image, donc après vous être intéressé aux couvertures et illustrations des œuvres de Flaubert, on va s'intéresser à la question des féeries, qui est un domaine qui est encore mal connu, mal exploité. Donc voilà, à toi.
Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'avoir la possibilité de parler ici. Malheureusement, je n'ai pas une belle représentation comme ça. Alors, je commence. La matière féerique dans l'œuvre de Flaubert. À côté de l'œuvre canonique de Flaubert se trouve un autre aspect peu connu de l'écrivain qui cultive un goût pour des formes théâtrales que l'on pourrait considérer comme banales, ridicules et vulgaires, autrement dit sans intérêt pour la haute littérature. Flaubert s'y intéresse tout au long de sa production littéraire et expérimente de temps en temps avec des scénarios de théâtre, pièces de fantaisie, plans de vaudeville, et de mélodrames dont il projette des esquisses de différentes longueurs. Parfois, il n'y a que quelques ébauches d'idées, d'autres fois, il se lance dans la rédaction d'un scénario complet avec son ami Louis Bouillet. C'est la tentation de Saint-Antoine qui appartient à un genre hybride entre narration et théâtre mental qui montre pour la première fois cette influence des formes théâtrales du XIXe siècle. La mise en scène des visions d'Antoine succède à celle d'un spectacle très courant de l'époque, le panorama. Les spectacles de théâtre visuel donnent à voir des scènes appartenant au domaine du merveilleux, tout en restant des visions d'histoire qui marquent profondément la culture du XIXe siècle. Comme Maurice Samuels l'a montré dans son étude des spectacles à Passe, c'est notamment dans la première moitié du XIXe siècle qu'on a pu observer une augmentation significative de sujets historiques dans les médias visuels de la culture populaire. L'histoire devient le thème prépondérant. Les cabinets de figures en cire, les fantasmagories, les spectacles de fantômes et les historamas puissent leur inspiration dans l'histoire et font recette. Une véritable conscience à la fois historique et spectaculaire naît dans tous les types de spectacles visuels proposés. C'est surtout la Révolution française, événement assez récent et mal digéré par la mémoire collective, qui fait l'objet de ces mises en scène. Le spectacle visuel de l'histoire intervient dans l'œuvre de Flaubert également par le biais de lecture des historiens du romantisme, notamment Michelet, qui se sert aussi de ce nouveau mode de représentation. Plus fort ? Oui ? Je vais essayer. La spectacularité de l'histoire dans l'œuvre de Flaubert se modifie à travers ces différents exemples, mais s'oriente vers un but totalement différent. Flaubert envisage une défiguration de l'histoire qui est, ce que cet exposé s'appliquera à démontrer, influencée par le modèle de la féerie, genre théâtral très populaire au XIXe siècle. Dans la démonstration qui va suivre, j'aimerais me concentrer sur le roman Salammbô afin de parvenir à une analyse plus cohérente de ce texte singulier. C'est Flaubert lui-même qui indique dès qu'il commence la rédaction de Salammbô le paradigme visuel sous lequel il aimerait placer son nouveau roman. En octobre 1857, il écrit en effet à Jules Duplan, je cite, « Les procédés du roman que j'emploie ne sont pas bons, mais il faut bien commencer par là pour faire voir. » Fin de la citation. Cette citation montre bien l'intention de Flaubert de trouver un moyen novateur de visualiser par le biais de l'écriture. Ce sont surtout les textes situés dans l'Antiquité et dans l'Orient, comme la Tentation et Salammbô, qui témoignent d'une exacerbation des éléments visuels à travers les descriptions des lumières, des couleurs et de toutes sortes d'impressions optiques. Selon Pierre-Marc de Biasi, Salammbô est un théâtre optique, une véritable machinerie hypnotique. Le paradigme visuel du siècle se retrouve intégré dans ce texte et se transforme en une écriture qui donne à voir. Il y a plusieurs sources à l'origine de ce style visuel exploré par Flaubert. Ces deux voyages en Orient lui fournissent les impressions qu'il tire directement de ses notes. De plus, l'imagination est, chez Flaubert, un phénomène de bibliothèque, comme Michel Foucault l'a déjà analysé pour La Tentation. Une autre influence majeure est, pensée centrale de cette intervention, le théâtre de boulevard du XIXe siècle. Avant qu'il ne commence Salammbô, en faisant naître l'Antiquité de Carthage juste après la Première Guerre punique, Flaubert expérimente au moyen d'une pantomime en six actes, étrange et lourde fantaisie qui a pour titre Pierrot au sérail. Même si cette pièce peut sembler mineure de point de vue littéraire, elle met en lumière une qualité particulière de Flaubert que Maurice Badèche a formulée en ces termes, je cite, « On se demande en effet, en lisant cette esquisse bouffonne, qui est une suite de gags assez drôles, si Flaubert, venu trop tôt, n'était pas un excellent metteur en scène du cinéma muet. » Car Pierrot au sérail est un film comique, comme en réalisait Meg Sennett, Méliès ou Max Linder. Fin de la citation. L'autre projet se nommait « La spirale », un conte philosophique fait d'illusions et d'hallucinations que Flaubert décrit de la façon suivante. Je cite « La préparation à l'état fantastique doit être amenée lentement. Il a voyagé en Orient, il a la tête pleine d'images vues ou conçues, à être peintre mais renonce à la peinture en arrivant à Paris, à l'habitude du haschich. Mais il a relancé, il lui suffit bientôt de respirer l'odeur de la boîte qui en contient pour se donner des hallucinations. Peu à peu, les rêves continuent au milieu de la vie active, il est dans un état de somnambulisme permanent, alors il devient insensible à la douleur. » Fin de la citation. Est-ce l'auteur Flaubert qui écrira juste après Salammbô qui se trouve au centre de cette fantaisie? La conclusion de cette pièce qui présente le roman historique de Flaubert est pour le moins stupéfiante. Le visionnaire se retrouve enfermé chez les fous. La conclusion est que le bonheur consiste à être fou, ou ce qu'on appelle ainsi, c'est-à-dire voir le vrai, l'ensemble du temps, l'absolu. Le scénario explique le reste. Le rêve est plus lucide que la vie réelle. Il fait apercevoir des perspectives justes sur la vie et sur les hommes. En permettant de traverser les siècles et les continents, ils permettent aussi de dégager les constantes de l'histoire telle qu'elle a été vécue et, par l'art, de sentir l'ordre, la vérité que nous cachent les faux tournants des civilisations. Tout cela peut être en grande partie appliqué au projet de Salammbô, où Flaubert tente à réaliser sa propre approche d'écriture de l'histoire. Ce projet diffère profondément, comme Gisèle Singer a pu le démontrer dans son étude « Une poétologie de l'histoire », des méthodes de Michelet par exemple, même si Flaubert se réfère souvent à ce dernier. L'objectif de l'exposé qui va suivre sera de démontrer qu'au milieu de ce roman historique, sérieux et extrêmement brutal, se trouvent des traces esthétiques et même poétologiques d'un genre théâtral qui ne se préoccupe pas un temps de l'histoire que du merveilleux. Le rôle des expérimentations théâtrales de Flaubert est généralement sous-estimé. Ce n'est pas seulement la naissance du visuel à travers l'écriture, les fantasmagories et les hallucinations produites sur scène, mais aussi notamment les structures formelles et temporelles. La discontinuité des tableaux caractéristiques de la féerie, ainsi que la trame narrative très mince, la spectacularité visuelle et les effets spéciaux optiques forme la matière esthétique et narrative de Salammbô. Dans la mesure où Flaubert se lance dans l'étude des féeries, bien avant qu'il ait fini les corrections du roman, il est très probable que la fascination pour la féerie existe déjà depuis plus longtemps. Car, même s'il ne se consacre officiellement qu'après Salammbô à son projet d'une opéra féerie, comme l'annonce les Goncourt le 21 février 18 1162, le roman est imprégné de cette féerie. Son attirance pour cette forme de théâtre spectaculaire creuse son chemin par des rivières souterraines et fait son apparition dans Salammbô. Cet exposé tentera de clarifier la manière dont Flaubert réalise l'effet du mirage entre roman d'histoire et roman moderne. L'hypothèse à la base de l'argumentation se fonde sur l'idée que l'écrivain distille une tendance propre au XIXe siècle qui consiste à court-circuiter le merveilleux et la catastrophe. La féerie subit des changements sensibles tout au long du XIXe siècle jusqu'à la féerie noire du XXe siècle que l'on peut trouver chez Céline par exemple, en favorisant de plus en plus l'élément catastrophique sous forme d'accidents et de cataclysmes. La féerie doit être vue comme un genre qui ne cherche pas la fuite dans le merveilleux des contes traditionnels, mais qui permet plutôt d'observer les ambivalences de la modernité et de ses formes et procédés imaginaires. De manière paradigmatique, la féerie amène une modernité fissurée, que ce soit dans le sens du merveilleux ou de la catastrophe, laquelle concerne également les processus sémiotiques, les artefacts techniques et les acteurs humains. Au niveau esthétique, ce sont la disparition soudaine des personnages et les ruptures entre les tableaux, c'est-à-dire toute la discontinuité de la narration jusqu'à l'anéantissement final dans l'apothéose qui, non seulement modifie l'esthétique visuelle, mais aussi la temporalité de la narration. Et dans le cadre d'un roman quasi-historique comme Salammbô, le concept de l'histoire. Il ne s'agit pas ici d'aborder Salammbô sous l'angle d'une féerie avec un sujet antique, même si cette lecture pourrait se révéler pertinente, mais plutôt d'élucider la force visuelle inspirée par la mode du théâtre spectaculaire du XIXe siècle et que Flaubert transforme en une véritable technique cinématographique littéraire. Il s'agit d'analyser l'influence de cette ambivalence moderne entre le merveilleux et la catastrophe introduite par ces techniques dans Salammbô. Cela est, selon notre hypothèse, la clé de la modernité noire dans ce roman qui cherche à faire revenir l'Antiquité à la surface. Premier point, le catastrophique figurant au cœur de la narration. La narration de Salammbô est profondément marquée par l'imagerie fantastique, les splendeurs de l'Orient et des images d'une extrême brutalité. Ces fantasmagories sont mises en scène comme de véritables tableaux, tableaux de bataille, tableaux d'une ville, etc., qui se déclinent souvent en plusieurs sous-tableaux. Dans ces images cyniques, plus ou moins statiques, se produisent des apparitions et disparitions, tous dans un style très visuel proche du théâtre et même précurseur du cinéma. L'apparition de Salammbô dans le premier chapitre est un exemple éloquent. Je cite « L'incendie de l'un à l'autre gagnait tous les arbres et les autres masses de verdure, tous s'échappaient de longues spirales blanches, semblaient des volcans qui commencent à fumer. La clameur redoublait, les lions blessés rugissaient dans l'ombre. » Fin de la citation. À ce jeu d'ombre et de lumière infernale proche d'un cataclysme, voire les volcans dans cette citation, s'ajoute l'éclairage soudain du palais qui donne lieu à un spectacle visuel de premier ordre. Je cite « Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du meulier s'ouvrit, une femme, la fille d'Amicar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. » Fin de la citation. On peut dire que cette entrée de Salammbô dans le roman est illuminée par des projecteurs comme s'il s'agissait d'une mise en scène cinématographique. Dans l'équivalent d'un plan fixe, le lecteur-spectateur suit la descente de la fille. Quand elle s'approche des tables des capitaines, elle est décrite dans tous ses détails comme sous l'effet de zoom successif. Une autre technique anticipant le cinéma intervient lors de la disparition de Salammbô à la fin du chapitre. Je cite « L'immobilité de Mato étonnait Spendius. Il était encore plus pâle que tout à l'heure et les prunelles fixes, il suivait quelque chose à l'horizon, appuyé des deux poings sur le bord de la terrasse. Spendius, en se courbant, finit par découvrir ce qu'il contemplait. Un point d'or tourné au loin de la poussière sur la route utique. C'était le moyau d'un char attelé de deux mulets. Un esclave courait à la tête du timon en les tenant par la bride. Il y avait dans le char deux femmes assises. Les crinières des bêtes bouffaient entre leurs oreilles à la morte persique sous un réseau de perles bleues. Spendius les reconnut. Il retint un cri. Un grand voile par derrière flottait au vent. Fin de la citation. La perspective s'apparente à une vue panoramique. Le spectateur voit quasiment au-dessus des épaules des deux hommes, au loin. Ces perspectives stables qui intègrent toujours la mise en scène d'une apparition ou d'une disparition, comme l'effet dans les féeries sortant d'un nuage de fumier, trouvent un pendant dans les pertes de repères qui se produisent en lisant les batailles si minutieusement décrites. La désorientation est due à une description extrêmement méticuleuse des mouvements de bataille. Les deux mastodontes sont détaillés en ligne, formation et direction. En même temps, la topographie du champ reste absolument floue, comme si le narrateur était indifférent à cette catégorie. Ce jeu de perspectives accélère pendant les combats. La bataille du Macar livre un excellent exemple de cette technique. Amilcar apparaît davantage comme un magicien qu'un général de bataille. Il cherche à liquider les mercenaires en imaginant une stratégie basée sur des illusions optiques. Je cite la première apparition de l'armée punique. Les barbares campés à Utique et les 15 000 autour du pont furent surpris de voir au loin la terre ondulée. Le vent qui soufflait très fort chassait des tourbillons de sable. Il se levait comme arraché du sol, montait par grands lambeaux de couleur blonde, puis se déchirait et recommençait toujours en cachant aux mercenaires l'armée punique. De petites vapeurs, subtiles comme des haleines, couraient sur la surface du désert. Une lumière âpre et qui semblait vibrer reculait la profondeur du ciel et, pénétrant les objets, rendait la distance incalculable. L'immense plaine se développait de tous les côtés à perte de vue. Fin de la citation. Amilcar lui-même apparaît et disparaît soudainement comme un spectre. Je cite une observation de Spendius. Je l'ai vu passer dans un grand manteau rouge, les bras levés, plus haut que la poussière, comme un aigle qui volait aux flaques des cohortes. Ou encore simplement, Amilcar parut. Et à la fin du chapitre, je cite, les éclaireurs, quand ils furent revenus, annoncèrent que les morts des Carthaginois étaient enlevés, le pont tout en ruine, et Amilcar disparut. Fin de la citation. Pendant la bataille, ses actes et ses décisions ne sont guère fiables. Il est tout le contraire d'un général de guerre comme par exemple Wallenstein de Schiller. Ici, ce n'est pas la logique de la bataille qui se trouve au centre de la description. C'est le spectacle visuel, la perspective interne de désorientation et d'illusion optique. Le maître est un magicien. Sa victoire entoure de prestidigitation. Le lecteur reste ébloui face à la force visuelle, mais n'a pas la possibilité de comprendre les manœuvres. La bataille du Macar est exemplaire par rapport au principe stylistique du roman qui fonctionne par interruption. Il n'existe ni un narrateur omniscient, ni un fil d'événements à suivre. Les tableaux changent l'un après l'autre sans que l'on puisse reconnaître les acteurs responsables de ces spectacles somptueux et atroces. Il n'y a pas la motivation de narrateur qui justifierait le conflit entre Carthage et les mercenaires dans l'ordre de l'histoire, comme ce serait le cas dans la littérature épique. Aucune dramaturgie ne travaille en arrière-plan pour rendre plus acceptable et cohérent au lecteur les couleurs infinies des apparitions brutales. C'est tout le contraire. La mise en œuvre d'une syntaxe qui utilise conséquemment la rupture force le lecteur à se livrer aux perspectives changeantes sans pouvoir les interpréter ou en repérer les causalités. Dans un premier temps, il perçoit d'un point de vue éloigné l'ensemble d'une constellation scénique. Quand cette image se rapproche, elle apparaît tout autrement. Les deux impressions restent liées, autrement dit, la deuxième ne remplace pas la première dans la mesure où elles ne sont pas évaluées par le narrateur. les connaissances, ou plutôt les impressions du lecteur, progressent en même temps que le grand nombre des phrases paratactiques. La progression de la narration produit une agrégation d'unités visuelles complémentaires, les unes au-dessus des autres ou bien côte à côte, donnant lieu à une accumulation dynamique et en même temps à une extension de l'espace. Cette méthode cinématographique littéraire fait renaître Carthage, une Carthage éblouissante, et avec elle, la succession des nombreuses catastrophes, les dévastations des batailles, le cannibalisme, le meurtre des enfants pour le sacrifice de Moloch, l'anéantissement final des mercenaires et le supplice de Mato, ensuite la mort de Salammbô. Le roman met au jour un paradigme esthétique de catastrophe qui se développe avant tout dans la narration et qui comporte la mise en scène d'une série d'unités temporelles discontinues. Cette visualisation rupture et catastrophe contient une part de temporalité spectaculaire qui se retrouve, selon notre hypothèse, dans l'épistémé de la modernité. Le paradigme esthétique de catastrophe, qui marque aussi la féerie et que Flaubert met en œuvre dans son roman, lui sert à inventer une représentation de l'histoire qui réalise ce mirage en appliquant à l'Antiquité les procédés du roman moderne, comme Flaubert l'écrit en se défendant de la critique de Sainte-Beuve à propos de Salammbô. On a vu dans quelle mesure ces procédés du roman moderne sont marqués par le paradigme visuel du XIXe siècle. La structure tableau de la féerie ainsi que le roman Salammbô se servent comme modèle, indique cependant une certaine forme d'organisation du savoir qui reprend d'une manière spécifique la fonction épistémologique que Foucault découvre pour le XIXe siècle. On verra par la suite que cette structure confère à ces actions fictionnelles, à la fois catastrophiques et merveilleuses, une tension qui s'exerce entre un statisme propre au tableau et des événements qui font éruption, les élèvent qualitativement à une forme esthétique dans laquelle une figure de pensée spécifique se profile. Cette figure met au jour une façon de lire l'histoire de manière épistémologique, comme une série de couches temporelles discontinues qui forment aucune ligne, mais s'anéantissent l'une l'autre. Deuxième point, Carthage comme artefact de l'histoire, une couche dans le temps livrée à l'anéantissement. La critique de Georg Lukács formulée à l'égard de Salammbô est connue. Il souligne le lien manquant entre l'action politique, alors Carthage et les mercenaires, et l'action amoureuse, ou plutôt psychologique, de Salammbô. L'action politique reste, selon lui, mal éclairée et saturée de descriptions détaillées mais insignifiantes. Flaubert n'arrive pas à nous rapprocher des vraies conditions socio-historiques du conflit brutal entre les deux armées. La monstruosité de cette guerre révèle à la fin ainsi qu'au début comme un effet historique irrationnel qui ne s'explique pas d'une manière organique par la narration. L'approche présentée dans cet exposé tente de prendre ce reproche de façon positive. Cependant, il est vrai que Flaubert n'écrit pas un roman historique au sens traditionnel du terme. L'esthétique condamnée par Lukács constitue le socle de cette approche. Flaubert coupe l'action de son roman de l'arrière-plan historique. Le récit qui en résulte est un épisode flottant librement dans le temps, sans motivation causale ni narrative. Il manque le cadre explicatif qui permettrait de placer ce conflit dans un contexte historique. Mais, en regardant de plus près ce texte, on trouve une autre tendance à historiciser ce Carthage inventé par Flaubert. Il s'agit d'une adaptation esthétique du modèle de l'histoire naturelle formulé par Georges Cuvier au XIXe siècle, également appliqué plus tard dans Beauvoir et Pécochet dans la vision d'un cataclysme total. Cette théorie de catastrophe géologique fait de l'histoire une succession de cataclysmes se déroulant sans la participation d'une volonté humaine ou politique. La structure tableau discontinue de la féerie se prête à des représentations de catastrophes. La stratégie narrative dans Salammbô va dans ce sens. Cuvier se rapporte à ses propres analyses paléontologiques des formations de fossiles. Il en résulte un modèle de l'histoire structuré de différentes couches. Ces couches sont séparées par des ruptures définitives, des catastrophes qui se produisent, une discontinuité temporelle en anéantissant la strate précédente. Ce modèle de Cuvier dessine selon Foucault à la fois la temporalisation et une tournure biologique du savoir moderne. Les deux se trouvant aussi dans le roman de Flaubert au niveau structurel, ainsi que dans les descriptions des matériaux, des paysages, de catarches et des hommes. Je me rallie à l'observation faite par Gisèle Singer, qui voit l'œuvre de Flaubert prise dans un rythme, je cite, « un cycle naturel qui fait alterner la vie et la mort. Le duo fait bien apparaître la structure binaire et cyclique de la représentation flaubertienne du temps, caractérisée par le rythme et l'intervalle bien différents de cette continuité littéraire qui, dont les conceptions dialectiques transforment la temporalité en devenir. » Fin de la citation. Dans Salammbô, ce n'est pas seulement la lutte entre les systèmes antagonistes représentés par Tani, Fécondité et Moloch, Destructeur. Ce principe fait plutôt partie d'un système primordial de rupture totale qui ont lieu dans l'histoire et qui anéantissent tout ce qui leur préexistait. Carthage, qui est agité comme symbole d'une destruction complète à l'horizon du texte, même si l'événement ne figure pas dans le cadre du roman, est constamment présente. Les mercenaires sont liquidés, ainsi que les personnages antagonistes, Tani et Moloch, représentés par le suppléant Salammbô et Mato. Dans Salammbô, Flaubert fait exploser d'une manière radicale l'idée d'un progrès de l'histoire ou d'un développement linéaire par le rapprochement qu'il opère entre l'histoire et la nature. Les réflexions suivantes s'efforcent de faire ressortir cette pensée en analysant les procédés stylistiques. Carthage elle-même est présentée comme une strate géologique composée de pierres et de monuments voués à tomber en ruine. L'imagerie de Salammbô se caractérise par une certaine pétrification stylistique déjà largement analysée par Victor Brombert. J'aimerais néanmoins souligner dans cet exposé un autre aspect que le résultat de Brombert oblige à considérer. Il ne s'agit pas seulement de transférer la vie et les forces instables en système artistique bien équilibré. La nature est certes dénaturée par la description. Le premier chapitre est exemplaire à cet égard. Je cite « Il y avait des troncs d'arbres babouillés de cinabres qui ressemblaient à des colonnes sanglantes. Ou avant, la venue des cypres faisait d'un bout à l'autre comme une double grenade d'obélisques verts. Le procès d'immobilisation atteint la végétation. Même les hommes semblent être pétrifiés. Je cite, d'autres ressemblaient à des statues de corail. Fin de la citation. Mais l'immobilité qui résulte de ces procédés stylistiques et qui débouche sur la structure tableau déjà évoquée plus haut n'a pas seulement pour but de fixer les paramètres artistiques. La pétrification représente plutôt une tendance de géologiser Carthage comme une couche temporelle. Cette ville est montrée dès le premier chapitre et jusqu'à la fin comme artefact de l'histoire. L'épisode de la visite des sépultures par Amilcar est particulièrement éclairant par rapport à ce dernier aspect. Je cite « Avec son flambeau, il alluma une lampe de mineur fixée au bonnet de l'idole. Des feux verts, jaunes, bleus, violets, couleur de vin, couleur de sang, tout à coup illuminèrent la salle. Elle était pleine de pierreries qui se trouvaient dans les calebasses d'or accrochées comme des lampadaires aux lames d'arin, ou dans des blocs natifs rangés au bas de murs. C'étaient des calaïsres arrachés des montagnes à coups de fendre, des escarboucles formés par l'urine de lynx, des glossopètres tombés de la lune, des tinanos, des diamants, des sandastrums, des bérylles avec les trois espèces de rubis, les quatre espèces de saphir. » Fin de la citation, mais etc. Le passage continue encore. Carthage se compose des pierres, sa richesse est constituée par ces pierreries, et de plus, Amilcar a l'illusion que cette qualité de pierre lui garantit l'éternité et le rattache au centre du monde. Je cite, « Les feux des pierres et les flammes de la lampe se mêlaient dans les grands boucliers d'or. Amilcar debout souriait, les bras croisés. Il se délectait moins dans le spectacle que dans la conscience de ses richesses. Elles étaient inaccessibles, inépuisables, infinies. Ses aïeux, dormant sous ses pas, envoyaient à son cœur quelque chose de l'éternité. Il se sentait tout près du génie souterrain. C'était comme la joie d'un kabir. Et les grands rayons lumineux frappant son visage lui semblaient l'extrémité d'un invisible réseau qui, à travers des abîmes, l'attachait au centre du monde. Fin de la citation. Ce passage peut être lu dans un sens géologique et révèle la texture du Catharge. Toute la ville est muséfiée et ses habitants se transformant parfois en statues jusqu'à la mer elle-même fossilisée. Je cite, « Derrière une montagne surgissaient d'autres montagnes, et au milieu de lacs immenses se dressait une île toute noire et de forme pyramidale. Sur la gauche, à l'extrémité du golfe, des tas de sable semblaient de grandes vagues blondes arrêtées, tandis que la mer, plate comme un dallage de lapis-lazuli, montait insensiblement jusqu'au bord du ciel. » Fin de la citation. Au-delà de ces lectures, par exemple Théophraste, traité de Pierrie, Flaubert a visité le Muséum d'histoire naturelle au Jardin des Plantes avant d'écrire la visite de ses trésors par Amilcar pour étudier les différentes pierreries. L'énumération des pièces de monnaie antique renforce sa dimension muséale. Je cite, puis l'envoyait disposer, par somme inégale, des pièces de toute valeur, de toutes les dimensions, de tous les âges. Depuis les vieilles d'Assyrie, minces comme l'ongle, jusqu'aux vieilles du Latium, plus épaisses que la main, avec des boutons d'égine, des tablettes de bactériane, des courtes tringles de l'ancienne Lacédémone. Plusieurs étaient couverts de rouilles, encrassées, verdies par l'eau ou noircies par le feu, ayant été prises dans les filets ou après les sièges, parmi les décombres des villes. Fin de la citation. Carthage apparaît comme un artefact de l'histoire naturelle et de l'archéologie. L'impression qu'il s'agit ici d'une strate temporelle est aussi confortée par l'usage de l'imparfait dans le roman. Ce choix de temporalité semble emprisonner l'action dans un présent éternel et renforce la structure tableau. Le génie de Flaubert consiste en outre à fusionner l'action et la description pour atteindre un tableau qui semble être figé comme une image fixe. L'organisation discontinue des tableaux influence la lecture, même si la suite des batailles instaure une certaine structure. Mais elle est en même temps logique et dénuée de sens, parce que l'affrontement du bien et du mal, les catégories telles que les civilisés contre les barbares, ne sont plus stables. Le civilisé devient barbare et vice-versa. À la fin, ce sont les barbares qui gagnent en humanité, on se donnait mutuellement la mort sous l'ordre des Carthaginois. Ces dernières, en revanche, se sont discréditées par la grande cruauté qui expose cette société dans toute sa monstruosité. Le sacrifice des enfants pour Moloch apparaît comme le pire crime. Finalement, le conflit entre les mercenaires à Carthage apparaît insignifiant dans sa dimension historique. Il s'impose, en revanche, comme un sujet de féerie. Michelet, au contraire, a bien essayé de donner un sens à ce massacre, mais Flaubert bat clairement l'idée d'une finalité ou d'un devenir. Troisième point, et dernier point, le merveilleux centre, accélération de la catastrophe. Il y a aussi un autre élément féerique qui est central dans la narration de Salammbô. C'est l'usage du merveilleux sous la forme du voile saint, le zaïmph. Cet objet mutique et en même temps merveilleux déclenche toute une série d'actions et de voyages aventureux. Premièrement, le vol du voile du temple commis par Mato et Spendius. Ensuite, la récupération du voile par Salammbô et leur seule nuit d'amour qui se passe à cette occasion. Ce voile saint apparaît aussi comme un objet de magie aux fonctions variables selon les différentes paroles magiques. Il est à la fois arme psychologique, objet érotique, trésor saint, bouclier de protection, manteau luxueux, etc. Le zaïmph produit un mouvement de transgression qui consiste à franchir les limites, les enceintes grosses d'un secret et d'une puissance, comme Jacques Niff l'a écrit. Mais également les frontières entre les deux Éphésiens, bien qu'ils unissent entre-temps Mato et Salambo pour une courte durée. Le voile unit et sépare en même temps par sa double signification en tant qu'enjeu de pouvoir et enjeu érotique. Spendius a l'intention d'enlever le voile afin d'affaiblir Carthage. Mato voit le Saïmph pour le donner à Salambo. Je cite, « J'ai été le chercher pour toi dans les profondeurs du sanctuaire. » Fin de la citation. Décrit d'une manière spectaculaire au début, le Saïmph s'apparente au firmament, un nuage où étincelaient des étoiles. Ce manteau de déesse que l'on ne pouvait voir et dont la vue seule était un crime. Ceci chez Salambo, le désir de voir ce voile. D'une façon complémentaire, le désir violent de voir cette dernière se manifeste chez Mato. À travers la possession du Saïmph, la crainte qu'il éprouve face à sa beauté disparaît. Mato, ensorcelé par les yeux de Salambo pendant un rêve, fait du Saïmph le fétiche de son amour. Je cite, « La nuit, seul, dans sa tente, il contemplait le Saïmph. À quoi cette chose de Dieu lui servait-elle ? Et des doutes survenaient dans la pensée du bavard. Puis, il lui semblait au contraire que le vêtement de la déesse dépendait de Salambo, et qu'une partie de son âme y flottait plus subtile qu'une haleine. Il le palpait, l'humait, s'y plongeait le visage, le baisait en sanglotant. Il s'en recouvrait les épaules pour se faire illusion et se croire auprès d'elle. Et Salambo, désespéré d'avoir vu le Saïmph, regrette en même temps de ne l'avoir pas soulevé. Pendant la rencontre des deux amants ennemis, le voile prend la fonction d'un simple tapis. La récupération du voile par Salambo n'apporte aucun remède à Carthage. Il a perdu son pouvoir et ensuite est remplacé par le sacrifice des enfants pour Moloch. Le Saïmph devient le signe d'une ambivalence profonde qui ne peut pas être surmontée au fil de l'action. Le merveilleux s'unit au potentiel de catastrophe en se soumettant au régime de la négativité de la vue. C'est là où se trouve la fonction poétologique du principe féerique. L'objet merveilleux, qui vit par la tension entre le visible et l'invisible, finit par s'anéantir. En devenant visible, le voile perd son pouvoir. En se livrant au regard, il déclenche un processus qui mène à la destruction. La réaction de Salambo et sa déception en sont signes précurseurs. Je cite, « Alors, elle examina le Saïmph, et quand elle l'eut bien contemplé, elle fut surprise de ne pas avoir ce bonheur qu'elle s'imaginait autrefois. Elle restait mélancolique devant son rêve accompli. » Fin de la citation. Le pouvoir du voile se transforme ainsi progressivement en pure négativité lorsqu'il est exposé aux yeux des hommes. Tout le processus fonctionne comme un développement photographique inversé. On n'obtient pas le positif, l'image en tant que telle, mais son négatif. Le visuel dont le voile devient la métaphore se détruit progressivement. Ainsi, le voile disparu est remplacé par Moloch, devient le signe même de la disparition qui se lie au niveau de la structure à la narration au tableau disparaissant l'un après l'autre en établissant une discontinuité vouée à la catastrophe finale. Le merveilleux n'est pas l'élément productif de l'action, mais une force destructrice. Flaubert crée à la fin une véritable féerie noire qui utilise des éléments esthétiques ainsi que structurels du genre en les transférant dans le roman historique. C'est surtout le modèle de l'histoire créé par Flaubert qui est contaminé par cette influence. La structure adaptée au roman révèle l'ambivalence du merveilleux qui se lie à un potentiel de catastrophe. Ici se loge une pensée de la modernité qui se renforce au cours du XIXe siècle et que Flaubert introduit très tôt dans son roman. Elle sera encore plus saillante au XXe siècle, notamment chez Céline. Le spectaculaire est à la fois un mode de représentation et un nœud poétologique. Le roman reflète ce paradigme visuel du XIXe siècle et le questionne dans l'objet merveilleux par excellence, le Saïmf. Le désir de voir, la problématique du savoir et la difficulté esthétique de raconter l'histoire se croisent dans la matière féerique qui constitue la matrice de ce roman. Merci.
Merci beaucoup d'avoir mis en valeur cet élément finalement, de la féerie et du cinéma, hein, comme élément de structuration de Salammbô. Et moi, il me semble qu'il y a aussi il y a une dimension de cette féerie qu'a souligné déjà plusieurs fois Pierre-Marc de Biasi, peut-être Jacques Neff aussi, cette dimension de la blague aussi parfois, parce que qui est difficile à mesurer pour nous, parce que on est face à un texte assez énigmatique, mais le palais qui s'illumine tout d'un coup, certaines descriptions, voilà. Et puis il y a un autre élément peut-être qu'il faut faire intervenir avec la question de la temporalité de l'histoire, c'est cette question fondamentale du mythe et de la polysémie du mythe dans Salammbô. Tu disais que Flaubert avait supprimé l'explication. Enfin, il a supprimé le premier chapitre explicatif. Gisèle est commentateur de Salammbô, on en parlait. Et il y a un souci de créer un effet d'énigme. Et face à la. Et ça, ça correspond au programme qu'on a eu de recherche sur le mythe, face aux démythifications positivistes de ses contemporains, Flaubert utilise ses interprétations, mais pour rendre énigmatique cette représentation de la croyance dans Salammbô et du mythe. Et il me semble que ça, c'est aussi une dimension. Mais peut-être y a-t-il tu ajoutais quelque chose, y a-t-il des interprétations, des remarques dans la salle? Gisèle,
c'est bien de souligner l'importance de Cuvier, hein, c'est tout à fait clairement ce que vous avez dit. Et c'est frappant aussi chez Louis Bouilé quand il écrit Les Fossiles, où il a réécrit Cuvier, et puis il compose par tableau féerique.
Et oui, il y a aussi cet élément dans Bouvard
et
Pécuchet.
Et après, réécrit Louis Bouilé.
Aussi dans l'éducation sentimentale, il y a les tableaux historiques de la Révolution et tout ça.
Oui,
mais je trouve que dans Salammbô, c'est plus pertinent.
Oui. Encore.
Et par rapport à la production de Château de Cartes, je me souviens plus, il est précis lorsqu'il part de la féerie, il veut faire quelque chose qui est contre la féerie traditionnelle. Hein. Et le rapport que tu l'as vu avec alors, parce que là, il y a aussi le problème de l'image, et c'est-à-dire l'expression figée, qui devient image, parodie de l'image, c'est plus intéressant cet aspect de la féerie, c'est-à-dire que la fantasmagorie.
Oui, je pense que d'un côté, la féerie pour Flaubert, c'est la pure bêtise, ça c'est clair. Hein. Mais au niveau structurel, il y a quelque chose là-dedans qu'il veut découvrir. Il écrit sa féerie juste après Salammbô. Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans Salammbô de cette structure et aussi de ces processus de l'imagerie, des images mentales, de la production des images mentales et de la spectacularité, de la soudanité. Est-ce que ça soudanité des images qui éblouissent et qui disparaissent. Et je pense que c'est ça, cette visualité qui est vraiment propre à la féerie, qui l'intéresse. Alors on peut peut-être dire que c'est un... il s'intéresse à la production des images mentales à partir de ça, et il transforme tout ça dans, en écriture. Oui, c'est ça peut-être.
Ça apparaît, ça disparaît ouais. au moment des batailles. Mm. Ça apparaît d'abord avec des détails précis sur les armes. Et tout à coup, le soleil descend et les reflets sur les, du soleil sur les armes vont tout disparaître.
Oui. Aussi, au côté des personnages, j'ai montré pour Amilka, il apparaît, il disparaît. C'est vraiment, si on voit les féeries, c'est tout bête, mais il y a cette notion de disparition et d'apparition qui fait le jeu de la visualité.
Et l'intégration du merveilleux, comme, oui. Comme spectaculaire, en fait.
Oui.
Aussi le pouvoir magique, hein, je pense que c'est...
Ben, au début, on pense à la fée électricité, un peu, c'est de façon un peu anachronique, finalement, parce qu'au moment où Flaubert écrit, c'est encore la, les lampes et les bougies. Hein, c'est... Bon, autre remarque, j'ai envie de travailler sur ces lambeaux. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Et puis je dois dire encore un mot pour les étudiants qui doivent rendre un dossier pour valider le séminaire. Donc ceux qui ont préparé et qui veulent le rendre aujourd'hui sur le rendre. Sinon, les étudiants de l'ENS peuvent le déposer rue Lomont au centre Flaubert ou me l'envoyer par internet. Et les étudiants de Paris 8 peuvent le. Ceux qui suivent le séminaire du lundi peuvent le rendre au séminaire ou le mettre dans le clavier, si possible avant la première semaine de juin, disons d'ici fin mai, pour qu'on puisse rendre les résultats en partie. Et puis, donc, je vous rappelle la séance du 1er juin, la journée du 1er juin. Vous pouvez prendre un programme si ça vous intéresse. Donc, le 1er juin, salle du SAN à Bouvard et Pécuchet, Genèse et Interprétation. Ça commencera à 9h30 jusque vers 17h. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis alors, à bientôt.